tout le monde est là. Alors ici, nous allons faire notre deuxième halte avant d'arriver au point d'orgue de la balade sur les pas de Henri Bosco. Henri Bosco, lui, connaissait très bien le Luberon parce que c'est une toute autre histoire que Camus. Il a découvert le Luberon très jeune et on en reparlera plus en détail de sa découverte de l'Ourmarin et du Luberon lors de la veillée que nous consacrerons avec notre association à Henri Bosco le 23 juillet prochain à l'Ourmarin et qui se déroulera au Bastidon qu'il possédait au-dessus de l'Ourmarin. Mais aujourd'hui, je vais vous lire des textes sur cette passion du Luberon et de la montagne. Il a beaucoup cette passion exprimée dans deux écrits, L'habitant de Sivergues, qui est un petit récit d'une soixantaine de pages et qui se passe exactement à Gerbeau, donc là où nous sommes, et puis aussi dans un autre roman qui est ici, qui s'appelle Le Sanglier, qui est sans doute son meilleur, du moins un de ses meilleurs romans, il en était lui-même conscient, et qui inaugure sa nouvelle manière où il va vraiment s'intéresser à son histoire locale et à la montagne du Luberon. C'est dans Le Sanglier que j'ai trouvé les plus belles pages qu'il a écrites sur le sujet. Le Sanglier, page 29. La nuit était lourde, on suffoquait. À 200 mètres à peine, le Luberon, qui avait engouffré dans les profondeurs de ses flancs depuis le début de l'été d'énormes cargaisons de chaleur, dégageait maintenant, sous l'influence de la nuit, une odeur animale. Cela suait de ses hanches à travers les toisons de genévrier et de ronce. Le grand corps, gonflé de ténèbres, barbelé de houx, exhalait des senteurs de bêtes. Elles arrivaient par bouffées brutales contre la maison. On devinait le monstre à deux pas. Et plus loin, cet animal sent la mort. Car la mort avait rôdé par là cette nuit. Sous quelle forme? Je ne le savais. Je n'avais pas de raison de penser que ce fût autour de moi. Je ne l'avais pas même frôlé. Je l'avais senti. Elle avait tout simplement passé, tout près de la maison, en allant peut-être du vallon des Cavaliers à la Gaillole. Quelque chose l'avait dérangé, j'en étais certain. Vallon des Cavaliers, c'est le vallon voisin de Gerbeau. Encore plus loin, la montagne est devenue carrément un monstre. Dans la nuit, j'avais eu la sensation que la montagne où j'étais accroché avait fait bande à part. Au souvenir de cette rupture entre ce monstre qui dormait juste contre moi et les terres plus tendres, je n'opposais qu'une route, une pauvre petite route où personne n'était monté ce matin et qui, venant de l'Ourmarin, passait devant une bergerie pour se perdre, il est vrai, à quelques cent mètres, je ne sais où. Et puis chez Bosco, tout est souvent une affaire de rêve, de rêverie. Pour moi, depuis 6 ans, cette montagne où j'avais passablement couru offrait moins un sujet à peindre qu'une suite de formes où condenser mes propres nuées. Elle s'y déposait toute seule, sans que j'y prise garde, tant l'attrait de ses vallonnements, de ses dômes, de ses blocs de couleurs a des faits sur la circulation intérieure de ma vie, aussi bien à travers ma chair que dans mon esprit, depuis le flux et le reflux de mon sang jusqu'au plus nuageux de mes songes, jusqu'à l'ordre d'apparition qui règle mes idées. C'est là qu'est mon climat pastoral, religieux, tragique. Toujours dans Le Sanglier, un dialogue entre le narrateur, René, qui est un jeune peintre, et Firmin, un habitant de l'Ourmarin. Il fait chaud. Si la lune se levait, on aurait peut-être un peu de brise. Je vis son ombre qui se tournait du côté de la montagne. Il la regarda un bon moment. Toutes les fois qu'il fait si lourd, monsieur René, on dirait que le Luberon se rapproche. Il prononça ces mots d'un ton si étrange que je le crus un peu fou. Et cependant, il est déjà bien assez près, ajouta-t-il. Je me retournai à mon tour et je sentis en effet la respiration toute chaude de la bête de pierre. La montagne était presque sur nous et sous ses flancs puissants, j'imaginais des êtres inconnus suspendus à ses noires mamelles. Ah, il y a l'effort, hein ? Et de l'autre côté du miroir, j'étais trop près de la montagne Non seulement le soir, jusqu'à moi, ces arômes coulaient et desséchaient ma gorge, mais je sentais encore passer, sous les murailles des ramades, ses racines de pierre. Je reposais sur son terrain, je lui appartenais. C'était une antique montagne où les vents, les pluies, les neiges avaient mamelonné les crêtes. Longtemps solitaire et tranquille, je l'avais un peu parcourue sans qu'elle élevât mes pas d'autres sortilèges que ceux d'une sauvagerie odorante. Maintenant, établi dans ces vallons, là-bas, de l'autre côté, vivaient des créatures venues d'ailleurs qui déjà nous révélaient un cœur tragique. Avant-dernier, ou dernier plutôt, exprès du sanglier. La rêverie, n'était-ce pas elle qui, pendant 5 années, m'avait ramené dans ce bastion rustique, avec l'espoir inavoué qu'un jour, des figures vivantes sortiraient de cette montagne immense et douloureusement solitaire. Il a fait un recueil qui s'appelle Luberon, et nous terminerons par ce petit texte où il écrit, toujours pour le Luberon, pour la montagne. Il arrive en ces lieux qu'une lourde matière, un bloc minéral écrasant, trouble le cœur, émeuve une informulable pensée et suggère en secret la présence d'un être qui attend de notre parole les mots qui en déchiffreront, s'il le peut, le mystère. Voilà pour notre tour.